tout de suite. La guerre commerciale est déclarée, et après ?
Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc ?
N'arrête pas l'écho. Le débat.
8 mars 2018.
Today I'm defending America's national security.
Aujourd'hui, je défends la sécurité nationale américaine.
Donald Trump
en plaçant des taxes sur les imports étrangers d'acier et d'aluminium.
Président des États-Unis.
Nous imposerons une taxe de 25% sur l'acier importé et une taxe de 10% sur l'aluminium importé dès que les produits passeront nos frontières. Nos industries ont été visées depuis des années. Des décennies, en fait, par des pratiques étrangères déloyales. Et cela va s'arrêter.
C'est du nationalisme économique.
Emmanuel Macron.
Le nationalisme, c'est la guerre. Et donc, en effet, tout le monde y perd.
Président de la République française.
Je pense qu'il est, en tout cas, important dans ce contexte que l'Union européenne réagisse rapidement et de manière proportionnée.
Jean-Claude Juncker.
L'Europe doit répliquer et elle va répliquer.
Président de la Commission européenne.
Donc, désormais, nous aussi allons imposer des taxes sur les produits importés. Nous allons désormais imposer des taxes sur les motos Harley-Davidson, sur les jeans Levi's et sur le Bourbon. Nous aussi, nous pouvons être stupides.
C'est pas un flux important, ça représente environ à peu près 1200 Airbus.
Cyril Mounier.
Pour vous donner un ordre de grandeur. Hein.
Délégué général d'Aluminium France.
Pour le moment, l'Union européenne n'est pas la zone la plus impactée. Il ne faut pas se tromper de cible. Pour nous, la cible, c'est les surcapacités chinoises.
Wang Yi.
L'histoire nous montre que les guerres commerciales ne sont pas la bonne manière de résoudre des problèmes.
Ministre des Affaires étrangères chinois.
Particulièrement dans une économie mondialisée. C'est la mauvaise décision. L'issue ne peut être que douloureuse.
Écoutez, pour moi, le mot de nationalisme économique est beaucoup trop fort.
Sébastien Ley.
On retourne, je dirais, à une phase normale de la mondialisation.
Think Tank, Institut Thomas More.
Ce que fait Donald Trump, le risque, c'est l'outrance verbale. C'est la guerre à outrance entre les pays. Ce qu'il fait de revenir à des formes de protectionnisme pour certaines industries, ça n'a rien de nouveau. En fait, c'est plutôt le retour à ce qui a été la politique traditionnelle des États-Unis.
Ce sont les États-Unis qui vont être pénalisés principalement.
Nicolas Bouzon.
Si Donald Trump veut faire la guerre commerciale,
économiste.
Le mieux pour nous, objectivement, c'est de lui laisser faire la guerre commerciale. Tout seul,
c'est le contraire de tous ensemble. Christian Chavagneux, Donald Trump l'avait promis dans son programme, eh bien le président des États-Unis le fait. Qu'est-ce qui se passe dans 15 jours alors pour les importations ?
Ah bah ça, on n'en sait rien pour l'instant. Il nous a promis donc 25% de tarifs douaniers supplémentaires sur les importations d'acier, 10% sur l'aluminium. À qui ça va s'appliquer ? Honnêtement, pour l'instant, on ne sait pas. Au début, c'était tout le monde. Puis il nous a dit jeudi, le Canada et le Mexique, non. Et puis aujourd'hui, il y a une négociation entre l'Union européenne et les États-Unis pour savoir si l'Union européenne aussi sera dedans. Donc si on enlève le Canada, le Mexique et l'Union européenne, c'est des taxes qui vont toucher à peu près 1% des importations américaines. Pourquoi il fait ça ? Parce que structurellement, le marché de l'acier est complètement déséquilibré. Et les États-Unis en payent en partie les pots cassés. Pourquoi ? Parce que la demande d'acier dans le monde s'effondre. Il faut aujourd'hui 3 fois moins d'acier qu'en 1980 pour produire la même unité de PIB. Donc la base de la demande est structurelle. De l'autre côté, il y a une surcapacité d'offre. Dans le ZAP, on l'a bien dit, responsable qui ? La Chine. D'accord, qui représente la moitié de la production mondiale, un tiers des exportations mondiales. Donc c'est la Chine qui est un peu
qui
le méchant.
Qui nous inonde.
Qui nous inonde
États-Unis
en Europe,
comme Europe.
États-Unis, voilà. Sauf que l'acier, depuis Jimmy Carter, c'est-à-dire depuis la fin des années 70, les États-Unis prennent régulièrement des mesures pour protéger l'acier américain. Il y a des mesures pour protéger l'acier américain contre les importations chinoises, ce qui fait qu'aujourd'hui, les importations chinoises d'acier, c'est 3% des importations d'acier
oui,
américain. C'est-à-dire que dalle, d'accord ? Rien du tout. De l'autre côté, Trump.
On dit peanuts, pardon,
c'est vrai. De l'autre côté, Trump, il voit quoi ? Depuis le début des années 2000, les États-Unis ont perdu en gros 64 000 emplois dans l'acier, 13 000 emplois dans l'aluminium. Ils ont des capacités de production. A priori, s'ils arrêtaient d'importer, ils pourraient produire localement. Donc Trump, il dit ben voilà. Je taxe super fort les importations, je fais de la production locale et je remonte les emplois.
C'est super fort, plus 25%, enfin les taxes, 25%, 10%, c'est super fort comme taxe ?
Alors, ça
sont des vraies barrières, ça, par exemple ? Bah,
ça peut être des vraies barrières. Alors, ça dépend un petit peu. Il faut bien distinguer les échanges en volume et les échanges en valeur. C'est-à-dire, en gros, les grandes quantités que vous achetez. Et là, effectivement, quand on regarde sur les volumes achetés par les États-Unis à l'étranger. On voit que l'Europe ne pèse pas grand-chose. Par exemple, l'Allemagne, c'est 3% seulement des importations d'acier. La France, c'est 1%. C'est pas grand-chose comparé aux 16% du Canada, aux 13% du Brésil ou de la Corée. Simplement, le problème, c'est que l'Europe exporte aux États-Unis de l'acier à haute valeur ajoutée. Et quand vous regardez finalement ce que représente en valeur l'acier européen, là vous tombez à presque un tiers de la valeur de tout l'acier importé. Et donc évidemment, si les taxes s'appliquent sur les prix de vente, et là c'est pour ça que tous les arguments que Christian a développés sont tout à fait justes, il faudrait quand même rajouter l'argument électoral, politique intérieure, qui est quand même une réalité. C'est-à-dire que ça a été une promesse de Donald Trump à ses électeurs de certains États. Donc ça oui, ça compte. Mais la réalité, c'est qu'une fois de plus, alors que c'est la Chine, comme Christian l'a dit, qui est la responsable du déséquilibre du marché mondial, bah, c'est l'Europe qui va se retrouver un petit peu le cocu de l'affaire, comme c'est trop souvent le cas, il faut bien le reconnaître, en matière de commerce international. J'en ai une plus jolie, qui est celle d'Hubert Védrine, qui est l'idiot du village global.
Vous parliez, Emmanuel Le Chypre, à l'instant de politique intérieure. Je vous interromps parce qu'on va retrouver juste aux États-Unis notre correspondant, c'est Pierre-Yves Dugas. Bonjour Pierre-Yves, correspondant à Washington.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Alors dites-nous, comment réagissent les milieux d'affaires américains ?
Je dirais avec un mélange d'inquiétude et de stupéfaction, encore qu'ils soient moins alarmés aujourd'hui que la semaine dernière. De leur point de vue, l'idée d'imposer des barrières douanières est toujours mauvaise et toujours risquée. C'est une initiative qui peut dégénérer en guerre commerciale qui ne profiterait à personne. Mais surtout, la sidérurgie et l'aluminium américains ne sont pas menacés d'extinction, comme le dit le président Trump. Quelques chiffres éloquents pour illustrer ce débat tout de même. L'acier emploie 140 000 Américains. L'Amérique importe 30% de son acier, un acier d'ailleurs qui a déjà été protégé des importations chinoises sous Barack Obama. En revanche, les industries qui consomment de l'acier aux États-Unis emploient beaucoup, beaucoup plus de monde, 6,5 millions de personnes. L'acier représente seulement 36 milliards de dollars dans le PIB des États-Unis, mais les industries qui consomment de l'acier pèsent 1000 milliards de dollars dans le PIB. L'Amérique, et notamment l'industrie automobile, l'industrie aéronautique américaine, a beaucoup à gagner d'un acier bon marché. Alors, les milieux d'affaires américains, toujours défendus par les républicains au Congrès, sont choqués de ce tournant protectionniste soudain de Donald Trump, et ils ont mis en marche leurs lobbies, qui sont montés au créneau ces derniers jours, et ils ont obtenu que les sanctions soient plus sélectives, notamment en fonction des pays. Des exemptions ont été annoncées, d'autres risquent de l'être au cours des prochains jours, à commencer par le Canada. Le Canada est le premier fournisseur étranger d'acier de l'Amérique, avec environ 16% des importations. Ensuite viennent le Brésil et la Corée.
Et la Chine, Pierre-Yves Dugas ?
Ben, c'est la grande question et c'est, je dirais, la grande absurdité de ces mesures protectionnistes agitées par la Maison-Blanche, c'est que la Chine, finalement, est assez peu visée par ces mesures, puisque les importations directes d'acier chinois ne représentent que 2%. Pourtant, la Chine, tout le monde est d'accord pour le dire, par sa surproduction, contribue à maintenir des prix très bas sur le marché mondial. Et puis c'est vrai, l'acier chinois rentre probablement sur le marché américain en passant par d'autres pays comme la Corée. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire, c'est que l'objectif de Donald Trump est de se poser en champion des ouvriers sidérurgistes. On est vraiment dans le populisme, dans le nationalisme, pour ne pas dire dans l'électoralisme. On n'est pas du tout dans la politique économique ou la géostratégie. Le plus grave, peut-être, c'est que les Européens vont passer à côté de l'occasion de faire front commun avec les États-Unis pour obtenir que la Chine change ses pratiques commerciales. Ce serait vraiment une occasion ratée.
Pierre-Yves Dugas avec nous depuis Washington. Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre-Yves Dugas pour dire que c'est l'occasion ratée, là, vraiment l'Europe et les États-Unis auraient pu s'allier pour faire le bras de fer avec la Chine et puis finalement...
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur la majorité des sujets, il y a plutôt un axe Europe-Chine qui semble se dessiner contre les États-Unis. C'est-à-dire que si vous prenez les pratiques commerciales, si vous prenez tout le combat contre le réchauffement climatique, si vous prenez l'aspect financier, bah aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plutôt une alliance objective entre l'Europe et la Chine contre les États-Unis de Donald Trump. Donc, ce que propose Pierre-Yves Dugas aujourd'hui, c'est un peu à rebours de ce qui est en train de se préparer.
Le fond du problème, en fait, c'est quand même le fonctionnement de nos forums internationaux pour régler les conflits, Christian Chavagneux. On sait bien que le problème de l'acier chinois, ça fait des années qu'on en parle. On a eu le G20 en 2016, un forum de discussion. Rien ne bouge, quoi. Finalement, Trump, celui qui n'est pas sage, fait ce que tout le monde aurait envie de faire, d'élever des barrières protectionnistes.
Et enfin, il faut pas non plus, c'est beaucoup de bruit pour rien, hein. Ça touche un pouillème des importations américaines, c'est un tout petit marché au niveau mondial, donc on est en train, les libéraux se sont beaucoup excités sur la montée du protectionnisme mondial. Attendez, ça touche pratiquement rien des virgules du commerce international, donc on s'excite sur pas grand chose.
Emmanuel.
Non, mais c'est vrai que globalement, si on essaye de reprendre un peu la dimension du temps long, on est quand même dans des grands cycles. Vous avez des grandes périodes qui sont favorables au multilatéralisme et aux grands accords, et vous avez des périodes qui sont moins favorables. Si vous prenez la grande période du multilatéralisme, par exemple, qui est la période 60-1990, dans les années 90, par exemple, vous avez en moyenne une trentaine de signatures d'accords de libre-échange par an entre grandes zones. Vous avez une proportion du PIB mondial, par exemple, couverte par des accords de libre-échange qui passent d'un peu moins de 10% en 80 à 25% en 2015. Des barrières douanières qui tombent de 10% au début des années 80 à 5% depuis le milieu des années 2000. Et après, la crise de 2008-2009, effectivement, vous avez ce multilatéralisme qui a nettement du plomb dans l'aile, hein, puisque vous avez, par exemple, nous dit l'OCDE, depuis 2008, près de 1300 mesures discriminatoires qui se sont implantés dans le monde.
Une question de principe.
On n'est pas dans un moment multilatéral.
D'accord, mais est-ce que par principe, on peut dire à nos auditeurs, oh là là, une guerre commerciale, c'est très grave, le libre-échange, c'est bien, et le protectionnisme, c'est mal. Christian Chavagneux.
Juste un mot quand même sur le multilatéralisme pour répondre à Emmanuel. Sur l'acier, depuis le début des années 80, les premières mesures Reagan, il y a toujours eu des mesures protectionnistes en Europe, aux États-Unis, donc c'est un vieux problème, l'acier. Il y en a tout le temps sur l'acier. Il y a eu effectivement une période multilatérale, mais au moment où la mondialisation était faible, en fait, des années 70 aux années 90. Les années 90, la mondialisation devient hyper-mondialisation, comme dit l'économiste américain Danny Roderick. Là, il y a tous les accords qui sont signés, comme dit Emmanuel, mais dès le début des années 2000, on passe du multilatéralisme au bilatéralisme. Et l'Union européenne, comme les États-Unis, comme les autres pays, se mettent à signer des accords en bilatéral. L'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy, le français, est le premier directeur général de l'OMC à pas arriver à boucler un accord de libéralisation internationale. Sur l'acier spécifiquement, vous l'avez dit Alexandra, il y a un forum à l'OCDE qui s'appelle le forum sur les surcapacités mondiales en acier. Ils n'ont rien fait du tout. Si, ils ont quand même dit attention, il y a des surcapacités. La Chine baisse de 15% ses surcapacités, enfin ses capacités de production. Ouais. Donc il n'y a pas eu d'effet nul.
Je crois qu'il faudra 30 ans
il faudrait 30 ans pour résoudre le problème. Donc sur l'acier, en plus, il y a une dimension symbolique. Vous avez vu cette image de Trump avec les gars derrière, avec des bras énormes qui sont les gros balèzes. Il y a cette dimension symbolique de la métallurgie, de la sidérurgie. Trump a dit, si on n'a pas d'acier, on n'a pas de pays. Mais rappelez-vous, les sidérurgistes français, c'était pareil. Il y a une symbolique forte du côté de la métallurgie.
Alors Christian, vous parliez de l'OMC. J'ai une question sur Twitter. J'ai un auditeur qui se demande à quoi ça sert du coup l'OMC, puisque Trump fait ce qu'il veut.
À l'OMC, c'est mort complètement. L'Organisation mondiale du commerce, c'est mort. Et ce que fait Trump va porter un coup d'épée, c'est un coup de poignard supplémentaire de l'OMC. Pourquoi ? Parce qu'il dit pas... Vous savez, à l'OMC, vous pouvez dire, j'ai une explosion des importations d'acier, donc je prends des mesures de sauvegarde. Il dit pas ça à Trump, il dit, je prends ça pour des mesures de sécurité nationale.
Ouais.
Et vous avez l'article 21... L'article 21 de l'OMC, des statuts de l'OMC, dit, en cas de problème de sécurité nationale, vous pouvez mettre des barrières. Et donc là, quand vous regardez le rapport du département du commerce américain, il y a marqué qu'il n'y a plus qu'une usine, aujourd'hui aux États-Unis, qui est capable de produire la qualité d'aluminium qui va dans les jets américains, dans tout. Donc, c'est très difficile de dire que les questions de sécurité ne sont pas en cause, mais soit les Européens vont à l'OMC et l'OMC dit, les Européens ont raison, c'est une question de sécurité, et là, Trump va dire, attendez, ces petits fonctionnaires internationaux vont m'imposer à moi des questions de souveraineté, je sors de l'OMC, donc l'OMC est morte. De l'autre côté, les Européens y vont et ils perdent, et là, Trump dira, j'ai gagné, vous voyez, je pouvais le faire. Donc, de toute façon, l'OMC, qu'elle prenne une décision ou l'autre, elle est morte.
Et par ailleurs, Trump est en train de bloquer des nominations à l'OMC, donc ça ralentit considérablement le travail des juges et le traitement des dossiers. Emmanuel Lechypre,
Bah, c'est vrai qu'on n'est pas dans le même cas de figure que le cas de figure qu'en 2002, quand George Bush Jr. avait aussi pris des mesures protectionnistes. Là, il avait été condamné par l'OMC, et 2 ans après, il avait été obligé de revenir sur ces mesures. La réalité, c'est qu'au final, de toute façon, c'est le consommateur qui paiera, et plus que jamais. Et plus que jamais, parce que il faut bien comprendre la nouvelle logique aujourd'hui du commerce international. C'est-à-dire que vous n'avez plus aujourd'hui des produits made dans un pays concurrencés par d'autres pays made dans un autre pays. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que dans un produit made in quelque part, vous avez 40% de produits made in ailleurs. C'est-à-dire des composants qui viennent d'ailleurs. Donc, comprenez bien que si vous pénalisez l'acier importé, par exemple, vous pénalisez les constructeurs automobiles américains et les consommateurs américains. Songez que dans une automobile américaine vendue aux États-Unis, vous avez à peu près les composants qui franchissent 8 fois les frontières, par exemple entre le Mexique et le Canada.
Donc là, vous êtes en train de me dire le protectionnisme, donc, c'est mauvais par essence parce que ça touche le consommateur.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, à hauteur de 80% des produits qu'on consomme, on n'a plus le choix entre un produit local et un produit fait ailleurs. Donc, on l'achète complètement ailleurs. Donc, du coup, ça veut dire que les variations de prix, les variations de taxes, c'est le consommateur qui, plus que jamais, les prendra frontalement et les supportera frontalement.
Il y a le prix pour les consommateurs et il y a les emplois. Américain. Et il y a le dossier emploi. Tout ça est encore une question
alors,
d'équilibre.
Sauf que là, pour l'acier, ça marche pas, ce que dit Emmanuel, parce qu'il y a des capacités de production nationales. Donc, a priori, on peut substituer aux importations de la capacité de production nationale. Donc là, ça marche un peu moins
sauf
bien.
Sauf qu'on avait détruit au final des emplois, Christian, avec ces mesures de Bush en 2002.
Oui, tout
où
à
le
fait.
Coût de protection des emplois avait au final détruit des emplois dans d'autres secteurs.
Je pense qu'on est en train de payer les erreurs des libéraux, en fait. Ils nous ont dit ouvrez, et tout va bien se passer, parce que quand on ouvre et qu'on a du libre-échange, il y a des gains au commerce international. C'est vrai que la seule étude que j'ai vue, c'est celle de la Banque d'Angleterre de l'été dernier, qui a vraiment essayé de mesurer, vous l'avez dit Alexandra, quand on importe des choses de l'étranger, Emmanuel l'a dit, ça fait baisser les prix, parce qu'on achète des choses moins chères, mais en même temps, ça fait détruire des emplois. Et donc, quand on fait le bilan des deux, est-ce qu'on gagne ou on perd? La seule étude que j'ai vue, c'est de la Banque d'Angleterre l'année dernière sur le textile anglais, qui dit, on y gagne. Mais attention, on y gagne de manière générale, sauf que les pertes, elles sont locales. Et là, on a une étude de la Banque de France de cette semaine, qui essaye par exemple de faire de mesurer le coût en emploi des importations chinoises. Et nous disent, 90 000 emplois perdus entre 2001 et 2007 dans le secteur manufacturier, 190 000 dans le secteur non manufacturier. Ça veut dire que les gains sont généraux, mais les pertes sont locales. Il faut de la redistribution entre les gains et les pertes. Oui. La théorie économique le dit, sauf qu'on ne le fait jamais, cette redistribution. On n'a jamais redistribué vers la sidérurgie américaine. On aurait dû le faire, on n'aurait pas le problème avec Trump.
Allez, un petit mot de la fin
pour
Emmanuel.
Si vous prenez
les
produits manufacturés, par exemple, qui sont à la disposition des consommateurs français, il faut bien comprendre que ces produits coûteraient presque 30% plus cher s'il n'était fabriqué que de composants faits en France. Donc inévitablement, ces gains de pouvoir d'achat, vous les retrouvez dans des emplois. Et effectivement, la question, c'est pas la question de l'emploi total, parce qu'avec tout ça, le macroéconomiste, il est très à l'aise. C'est la question, effectivement, qui perd,
la redistribution,
qui gagne. Mais c'est plus de la question de la redistribution et des politiques, des politiques sociales pour s'adapter à la mondialisation que de remettre en cause la mondialisation elle-même.
Emmanuel Lechypre et Christian Chavagneux, les débatteurs du samedi matin. Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine.